Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de condition physique. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres prix, débarquer en Bandaka, en canoë-kayak, franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage, style papillon et j'en passe. Okapi Sport. Un ensemble de correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme pour vous apporter l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sport, car la passion du sport est sur Radio Okapi.
Le 10 mars de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale des maladies de rats. C'est l'occasion de rappeler qu'en RDC, bon nombre de gens vivent notamment avec l'insuffisance rénale sans le savoir. Certains le découvrent tardivement, faute de dépistage, et dans bien de cas, la mort s'ensuit. Qu'est-ce qui cause l'insuffisance rénale? Comment peut-on la prévenir? Docteur Anse Kamangani, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes chef de département de médecine interne au clinique universitaire de Kinshasa. Alors, qu'est-ce qu'on entend par insuffisance rénale?
L'insuffisance rénale, on peut l'assimiler à une défaillance de rein à remplir de fonctions physiologiques. Ce sont la purification du sang, la régulation de la teneur en eau et celle de l'organisme, l'élimination de substances acides et la production de certaines hormones comme une hormone qui aide la production de globules rouges, donc à la production du sang, vous voyez.
Voilà, donc c'est ça le rôle de cet organe,
rein, oui.
Qu'on appelle le rein. Mais, donc vous avez dit pour purifier le sang, notamment particulièrement.
On purifie le sang,
oui.
On règle la teneur en eau et en sel dans l'organisme,
oui.
Et puis la sécrétion des acides. Ces trois premières fonctions sont vitales. Hein. Donc quand il y a une défaillance du rein, la défaillance au niveau de ses fonctions va entraîner la mort du malade.
Oui. Et quelles sont généralement les causes de cette défaillance des reins?
Oui, les causes, il faut voir les types d'insuffisance rénale. Si il s'agit d'une insuffisance rénale aiguë, c'est-à-dire réversible, c'est généralement des causes infectieuses comme la malaria, des causes toxiques comme certains antibiotiques comme la clamamycine, la gentamicine, certains produits traditionnels aussi. Il y a certaines causes, par exemple, de perte excessive d'eau et de sang dans les corps. Ça peut entraîner, un blocage et des fibres de rein, donc des substances en aiguë. Par contre, pour des cas chroniques, c'est-à-dire où nous avons une perte irréversible de la fonction rénale, là, c'est essentiellement le diabète et l'hypertension et les atteintes glomérulaires.
Voilà, donc ce sont là les causes. Vous avez parlé de la malaria, certains produits tels que les gentamicines, vous avez dit, et,
ouais,
et d'autres
produits. La pierre d'amatoine, on sait bien tout ça aussi.
Oui, donc ouais. Ceux qui souffrent, vous voulez dire que ceux qui, les sujets hypertendus et diabétiques sont également prédisposés à développer l'insuffisance.
Exactement. Donc, les personnes qui ont pu souffrir d'hypertension après le diabète peuvent à la longue développer une insuffisance rénale chronique. C'est la forme la plus, disons, la plus présente, la plus grave présente sur le plan socio-économique.
Oui. Alors, quels sont les symptômes ou les signes de cette insuffisance? Comment le malade peut savoir que ma santé est en danger?
Ah oui, ça c'est très important. Il faut savoir qu'en général, le rein, les maladies de rein ne donnent pas de symptômes. Quand bien même il y a une insuffisance rénale, surtout dans les cas chroniques, c'est quelque chose qui s'installe de manière progressive, vous ne ressentez rien du tout. Et quand vous allez commencer à ressentir quelque chose, ça sera par exemple la fatigue, ça sera la difficulté de... la difficulté, c'est-à-dire une difficulté de la respiration à l'effort. Ce sera peut-être des nausées, des vomissements, des crampes. Mais vous voyez que ce sont des symptômes qui ne font pas penser directement à une atteinte rénale.
Oui.
Et donc la personne qui en souffre va penser peut-être échanger des verres, surtout si c'est plein de diarrhée, vomissement et manque d'appétit, il va croire que ce sont des verres, alors que ce sont des substances rénales. Alors, ce n'est qu'à un stade très très avancé, on va avoir des symptômes un peu plus spécifiques avec le rein, c'est-à-dire on aura, par exemple, l'installation d'une haleine qui sort d'urine. Donc la personne qui parle, elle va, son haleine va sentir l'urine. Mais ça, c'est vraiment un stade très avancé.
Très avancé.
Ouais. Mais à un stade assez précoce ou moyen, les symptômes peuvent ne pas exister, ou quand ils existent, ils ne font pas penser à une atteinte rénale. Alors ça déroute, et le malade, et le médecin,
oui,
par les diagnostics.
Alors pour arriver à détecter cette maladie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut procéder, passer par des examens.
Oui, donc c'est pourquoi le service de néphrologie et universitaire, suivant la recommandation des autorités scientifiques qui ont instauré la Journée mondiale du rein, alors je suis le service de néphrologie organise depuis 2007 une campagne de détection précoce et de prévention des maladies de rein. Donc c'est très important la détection précoce parce qu'il s'agit de une maladie dont l'expression n'est pas tout à fait très, très parlante. Donc, il vaut mieux qu'en pendant qu'on ne constate encore rien, qu'on fasse le dépistage.
Oui. Voilà, donc il faut faire le dépistage. Docteur Oseka, vous êtes suivi à travers le pays. Les auditeurs appellent pour poser des questions. Nous avons en ligne Jean Bosco de Lubumbashi et Jean-Claude depuis Siro, dans la province orientale. Jean Bosco, on commence avec vous. Bonjour. Jean Bosco n'est plus en ligne. Jean-Claude de Siro, bonjour.
Bonjour, j'ai dit, je voulais poser la question à l'invité, mais j'ai trois petites questions. Je voulais savoir quels sont les symptômes qui peut pousser les gens à voir que celui-ci est en train de souffrir de cette maladie-là. Et autre, qu'est-ce que nous pouvons nous protéger pour ne pas attraper cette maladie? Et troisième question. Quelles sont les mesures préventives qui peuvent faciliter les gens à cette maladie? Merci.
Merci Jean-Claude Dissiro, docteur Seca.
Oui, donc je suppose que la deuxième et la troisième question sont faites le même, parce qu'il s'agit de la prévention. Alors, je commence par la première question. Quels sont les symptômes de l'insuffisance rénale?
Oui.
Eh bien, comme j'ai dit, l'insuffisance rénale, surtout dans la forme chronique, qui est la forme la plus fréquente et la plus lourde sur le plan socio-économique. J'ai dit que cette forme-là ne donne pas de symptômes au début. On n'a pas de plaintes. Et quand bien même il y aurait des plaintes, ce sont des plaintes de type plutôt général. C'est-à-dire peut-être un peu de fatigue, un peu de nausées, de diarrhée, de vomissement. Ouais. Mais ce n'est qu'à un stade très avancé qu'on va avoir des symptômes un peu plus spécifiques ou des symptômes qui vont orienter vers les choses. Donc je crois que c'est très important pour notre population de savoir que quand il s'agit d'une atteinte rénale, d'une insuffisance rénale chronique, il ne faut pas attendre d'avoir des symptômes spécifiques qui vont vous pousser à consulter l'hôpital. C'est la raison pour laquelle nous recommandons vivement la détection précoce. Et vous savez, les examens qu'on fait pour la détection précoce, ce sont les examens qu'on peut faire un peu partout, c'est-à-dire un examen d'urine, on va rechercher la présence d'albumine dans l'urine, on peut rechercher la présence du sang dans l'urine, une prise de tension artérielle, et dans le sang, on peut doser la créatinine et l'urée. Vous voyez, ce sont des examens que l'on peut faire dans beaucoup de laboratoires dans notre pays.
Oui. Voilà, et il a parlé aussi des mesures préventives, je crois que vous avez déjà parlé de ça. Alors, oui. Alors,
donc, si nous parlons de l'insuffisance rénale chronique, qui est généralement causée par le diabète et l'hypertension, et là, la prévention, il y a la prévention qu'on appelle primordiale, c'est-à-dire comment prévenir pour que, que le diabète et l'hypertension ne puissent pas nous atteindre. Alors là, il y a des mesures en rapport avec l'alimentation. On dit que nous devons manger de manière saine, c'est-à-dire manger moins de sel, moins de sucre, moins de graisse, mais plutôt beaucoup de fibres. Alors, il y a aussi des mesures sur le plan du mode de vie. Nous devons éviter le sédentarisme, c'est-à-dire nous devons bouger suffisamment. Bouger, c'est-à-dire marcher, marcher, se promener. Nous devons éviter de fumer.
Oui.
Nous devons éviter de fumer. Nous devons éviter l'accès d'alcool. Oui, parce que ça, ce sont des mesures. Toutes ces mesures vont nous épargner des maladies comme l'hypertension et le diabète.
Oui.
Donc, ça, c'est la prévention primordiale. La prévention secondaire, ça, c'est encore une fois la détection précoce, hein,
oui,
de l'hypertension et du diabète. Donc, pour le diabète, il suffit de faire la glycémie. Pour la tension, il suffit de faire mesurer votre tension artérielle.
Voilà. Jean Bosco nous appelle de Lumbassi. Bonjour.
Bonjour.
Votre question?
Ma question est la suivante. J'ai une cousine qui a été déclarée VIH positif. Dès lors, elle présente elle urine peu. Pendant la journée, elle n'urine pas. Elle urine seulement beaucoup pendant la nuit. Alors, on commençait à penser qu'elle faisait une insuffisance rénale. Alors, je voulais poser la question de savoir si votre invité pouvait nous confirmer que le VIH peut être à la base d'une insuffisance rénale. Et en deuxième lieu, de savoir, parce que la cousine en question ne veut... Elle devrait être mise sous antirétroviraux. On craint maintenant parce qu'elle est en train de croire que ça risque d'accentuer les signes de l'insuffisance rénale. Je voudrais savoir maintenant si c'est le VIH qui n'est pas traité, qui cause une insuffisance rénale, ou bien c'est le VIH qui est traité par les antirétroviraux qui cause une insuffisance rénale.
Merci. Oui. Docteur Sekin.
Oui, merci. Oui, c'est-à-dire que le VIH en lui-même, le virus peut causer une insuffisance rénale. Alors, les produits antirétroviraux sont connus aussi pour certains produits peuvent endommager les reins. Voilà.
Donc, certains produits peuvent endommager les reins, vous confirmez cela. Alors, pour le cas de sa cousine, qu'est-ce qu'il faut faire?
Bon, il faut d'abord qu'on sache s'il fait réellement une insuffisance rénale. Hein. Donc, il faut qu'on puisse doser la créatinine dans le sang et qu'on fasse doser l'albumine dans les urines. Et en ce moment-là, on va être fixé qu'il s'agit d'une insuffisance rénale. Il s'agit d'une insuffisance rénale.
Voilà. Des questions de réaction composées de 081-893-6394. Vous avez également la possibilité de nous écrire à service@radiocapi.net.
Radio Okapi unit le Congo avec vous au centre de ses activités. Vos problèmes, vos avis, vos pistes de solutions sont l'objet de notre émission Parole aux auditeurs. Où que vous soyez, Parole aux auditeurs vous donne la parole. De lundi à vendredi de 11h à midi, dans le Kinshasa, et le mercredi de 10 à 11h, vous avez 60 minutes pour donner votre avis sur les sujets du jour. Dans Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action. Alors, on retient, de lundi à vendredi, de 11 à 2h, et mercredi dès 10h, dans le Kinshasa Park.
Insuffisance rénale chronique à cause des préventions, on en parle avec le docteur Nseka Mangani, chef du département de médecine interne aux cliniques universitaires de Kinshasa. Il est au téléphone maintenant, il est bel et bien en face de moi. Docteur, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Voilà, on parlait de sa cousine, il dit Jean Bosco depuis Lumbashi, il nous dit que sa cousine, pendant la journée, elle urine presque pas, c'est la nuit qu'elle urine beaucoup.
Oui,
donc on peut déjà dire que c'est des signes de l'insuffisance rénale.
Non, on ne peut pas dire encore si c'est une insuffisance rénale. Hein. Vous devrez être sûr qu'il s'agit d'une insuffisance rénale. Donc, moi, je vais conseiller qu'il aille à l'hôpital et qu'il se fasse examiner les urines à la recherche de l'albumine et le sang, le dosage de la créatinine et de l'urée.
Voilà. Pascal nous appelle de Kindu. Bonjour.
Oui, bonjour Radio Capi.
Oui, votre question, Pascal.
Oui, moi j'ai des petites préoccupations à poser à notre invité.
Oui.
Et ma première préoccupation est celle-ci. Quels sont les mécanismes physiopathologiques qui favorisent le passage d'une insuffisance rénale aiguë à une insuffisance rénale chronique? Et ma deuxième préoccupation concerne la prise en charge. Merci Radio Capi.
Merci Monsieur Pascal. Monsieur Seca.
Oui, l'insuffisance rénale aiguë. Par définition, donc, ou par expérience, c'est une insuffisance rénale qui est généralement réversible. C'est-à-dire, quelqu'un fait un blocage de rein, qu'on appelle un peu de manière vulgaire, et puis le rein se débloque. Et les choses, en principe, rentrent à la normale. Mais c'est vrai, le fait que le rein ait souffert, ou dans certains cas, des malades qui ont présenté une insuffisance rénale aiguë, peuvent évoluer vers une insuffisance rénale chronique. Alors, quels sont les mécanismes? Les mécanismes, on peut comprendre parce que tout dépend du degré de récupération. Si le rein a été touché par, admettons, par un produit toxique, et que le tubule, le tube ou le tuyau qui amène l'urine ont été détruits, et si les tuyaux n'ont pas été régénérés complètement, il y a une partie qui va rester détruite. Et cette partie qui va rester détruite va entraîner d'autres destructions au niveau du rein. À ce moment-là, on va avoir une évolution de l'insuffisance rénale aiguë vers l'insuffisance rénale chronique. Alors, vous avez demandé quelle est la...
Il a parlé aussi de la prise en charge.
La prise en charge, oui. La prise en charge de l'insuffisance rénale chronique ou bien aiguë, mettons chronique.
Oui.
Oui. La prise en charge de l'insuffisance rénale chronique, la première des choses, c'est d'établir les degrés de l'insuffisance rénale. Parce qu'il y a 5 degrés, 5 stades. Et les deux premiers stades, la prise en charge consiste essentiellement à traiter des anomalies qu'on a constatées, par exemple, au niveau de l'urine. Parce que dans les deux premiers stades, la fonction rénale est plus ou moins normale. Mais par contre, quand on arrive au troisième stade, c'est-à-dire là, la fonction rénale est réduite à peu près de 40%, donc on a 60% de la fonction du rein, tout au plus. Bon, là aussi, on peut traiter de manière symptomatique, on voit ce que le malade présente comme complication. Le stade 4, c'est un stade où, d'une part, on traite les complications et d'autre part, on prépare le malade à la dialyse. Parce que la dialyse, on la fait quand le malade est au niveau du stade 5.
C'est quoi la dialyse?
La dialyse, c'est un traitement qui permet la purification du sang et qui permet aussi de pouvoir évacuer ou enlever l'excès d'eau et de sel dans le corps. Vous vous rappelez, nous avons
parce
dit...
Parce que le rein ne fonctionne plus.
Mais voilà, parce que le rein ne fonctionne pas. Parce que le rein, justement, sert à éliminer les déchets.
Oui.
Le rein sert à régler la teneur en eau et sel dans le sang. Le rein sert à éliminer les acides. Et donc, la dialyse, c'est le traitement qui va servir à combler
le déficit. Voilà. Eric nous appelle de Kinshasa. Bonjour. Eric, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Oui, ma préoccupation, c'est d'avoir une personne atteinte de cette maladie. Peut-elle avoir des rapports sexuels avec son partenaire, même au stade de préliminaire?
Oui, en tout cas, il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque pour la partenaire hein, ou le partenaire. Le problème, c'est que quand on arrive à un stade très avancé, par exemple au stade 5, il n'y a toujours pas de risque de contagion. C'est pas une maladie contagieuse. Mais la maladie, étant donné que le corps entier est empoisonné, intoxiqué par le déchet, la personne peut se plaindre de manque d'appétit sexuel ou d'impuissance sexuelle. Donc, ce n'est pas qu'il y a une contre-indication, mais c'est un problème de capacité de la personne à accomplir cet acte-là.
Et Didier nous appelle de Kinshasa. Bah, il n'est plus en ligne, Marcel. Didier, voilà, on va le retrouver tout à l'heure. Docteur, pour quelqu'un qui, lorsque la personne va uriner, il y a des traces de sang dans les urines, est-ce qu'on peut dire que ça peut alerter rapidement pour dire que voilà, ça peut être une insuffisance qui commence?
Non, c'est un peu. Mais c'est bon qu'une personne soit alerte parce que c'est justement l'essence de cette journée mondiale du rein qui est destinée à faire accroître dans la population la conscience de l'existence des maladies de rein dans la population et aussi donc faire accroître la conscience de la gravité des maladies de rein et du coût de leur prise en charge.
Ça coûte cher.
La prise en charge coûte cher. La prise en charge coûte cher. La dialyse, l'état chronique, c'est toute la vie. Alors, vous voyez, un traitement qu'il faut prendre toute la vie et dont le coût unitaire, déjà, c'est en termes de milliers de dollars. Vous imaginez que c'est vraiment prohibitif. Ouais.
Voilà. Didier de Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, docteur. J'étais allé à l'hôpital pour faire un test de traitement. Et dès là, on m'a dit que j'avais un taux faible de créatine. Alors, je ne sais pas quoi faire pour pouvoir remédier à ces problèmes. Vous pouvez me dire quoi faire?
Oui, si vous avez un taux faible de créatinine, bon, a priori, on peut se réjouir. Mais le problème, c'est le suivant. Est-ce que le résultat est fiable? Parce que c'est ça aussi le grand problème. C'est ça le grand problème auquel nous sommes confrontés en tant que spécialistes de maladie de rein. Parce que nous devons poser des diagnostics, nous devons prendre des décisions sur base essentiellement des résultats des examens de laboratoire. Maintenant, si vous allez dans un laboratoire qui n'est pas fiable, qui vous donne des résultats qui ne sont pas tout à fait correct, bon, ça va dévoûter tout le monde. En principe, je ne connais pas un état où le taux de créatinine baisse. En fait, ça peut baisser s'il y a fonte de la masse musculaire. Par exemple, quand une personne est en train de vieillir, hein, que la chair quitte la personne, à ce moment-là, le taux de créatinine peut baisser. Mais
la créatinine, c'est quoi, docteur? C'est quoi?
La créatinine, c'est une substance qui est un dérivé. C'est la créatine. La créatine, c'est un composant plutôt de la cellule musculaire. Alors, la créatinine, qui provient donc de la créatine, normalement, elle est éliminée par le rein. Si le rein n'arrive plus à l'éliminer, le taux va augmenter dans le sang.
Et donc, c'est danger pour le corps.
Ce n'est pas que la créatine est dangereuse pour le corps, mais c'est un indicateur. Quand le taux augmente, cela veut dire que le rein ne filtre plus suffisamment.
Voilà.
Et donc, il y a une substance rénale.
Donc, le rein fait un travail de filtrage.
Voilà
un travail de filtrage. Joseph nous appelle de Kananga. Bonjour.
Oui.
Oui, Joseph.
Bonjour, Radio Papi.
Joseph, bonjour, on vous écoute.
Oui, trois petites préoccupations ou en cas de des questions. Je voulais poser la question, est-ce qu'il y a ressemblance ou bien entre le cas d'insuffisance rénale et le cas de prostate? Est-ce qu'il y a de suffisance ou bien la différence qu'on pourra dégager au premier cas? Le deuxième cas, est-ce que le problème d'insuffisance entraîne-t-il l'incapacité quant à ce qui peut créer comme cause dans la capacité sexuelle est mise en cause, c'est ça. la capacité sexuelle est-elle mise en cause quand vous êtes atteint de l'insuffisance rénale?
Oui.
Et maintenant, je n'ai pas bien saisi quand je viens d'arriver les précautions à prendre quant à la maladie de l'insuffisance rénale.
Merci Joseph de Kalanga. Serge nous appelle de Mahagui dans la province orientale. Bonjour.
Bonjour, les humoristes, bonjour à l'invité.
Oui, Serge.
Oui, j'ai une préoccupation.
Laquelle?
J'ai suivi l'invité lors de son exposé.
Oui.
Il disait que le sujet hypertendu et diabétique est prédisposé à faire une insuffisance rénale chronique.
Oui.
Et ma préoccupation est de savoir si il peut vraiment nous expliquer comment ce sujet peut arriver à développer cette pathologie, donc les mécanismes.
Voilà, merci. Et Mugwisa nous appelle de Bounia. Bonjour.
Ah, bonjour.
Bonjour. On vous écoute, Mugwisa.
Oui, ma préoccupation est celle-ci. Est-ce que la maladie comme l'albumine, est-ce que serait due à l'insuffisance rénale?
Merci, Mugwisa. Docteur, on sait que vous avez la parole.
Merci bien. Alors, je réponds pour le premier intervenant.
Oui.
Qui parlait de la prostate. Alors, la première question, la prostate et l'insuffisance rénale.
Mm-hmm.
L'insuffisance rénale est causée par la prostate, mais par contre, l'augmentation du volume de la prostate, qu'on appelle l'hypertrophie prostatique ou le cancer de la prostate. Donc, chaque fois que la prostate augmente le volume, comme elle est située juste en dessous de la vessie et qu'elle entoure l'urètre, c'est-à-dire le tuyau qui évacue l'urine de la vessie vers l'extérieur. Donc, toute augmentation du volume de la prostate va faire que la prostate va, étrangler l'urètre et causer, en ce moment-là, cela peut être à la base d'une insuffisance rénale. Donc, ce n'est pas le rein qui va causer la prostate, mais c'est l'augmentation de la volume de la prostate qui peut causer une insuffisance rénale. Voilà. La deuxième question, c'est en rapport avec le...
Est-ce que ça peut entraîner l'incapacité sexuelle?
Oui, donc ça, je l'ai dit. J'ai dit que l'insuffisance rénale, au stade très avancé, par exemple au stade final 4, peut être à la base d'une perturbation de la fonction sexuelle.
Exactement.
Mais c'est très important de savoir que l'insuffisance rénale, c'est plusieurs stades. Donc, je voudrais vraiment que la population le sache, c'est plusieurs stades, et que ce n'est pas seulement les derniers stades. Donc, nous avons le stade 1, 2, 3, 4, et le stade 5 qui est le dernier stade qui va exiger qu'on prenne le malade en dialyse. Alors, il y avait une autre question.
Oui, c'est Serge, le malade qui dit comment un sujet hypertendu peut arriver à développer, si vous pouvez expliquer le mécanisme.
Oui. L'hypertension artérielle, comme le diabète, ce sont des maladies qui vont pousser, qui vont atteindre les vaisseaux sanguins.
Oui.
Et vous savez que le rein, c'est essentiellement les vaisseaux sanguins. Les reins composés de beaucoup de vaisseaux sanguins. Alors, du fait de l'hypertension artérielle et du fait du diabète, cette atteinte des vaisseaux sanguins va faire que certains vaisseaux vont être bouchés et donc... quand c'est bouché, non pas seulement que la filtration ne se fait pas, mais aussi la nutrition, l'alimentation de certaines parties du rein ne se fait pas correctement.
Mmh.
Alors, vous savez très bien que quand des parties ne sont pas nourries suffisamment, ils vont périr. Donc, c'est ainsi que le diabète, comme l'hypertension, qui sont des maladies qui s'attaquent aux vaisseaux sanguins, vont causer à la longue une insuffisance rénale.
Voilà, et Mugwisa qui a parlé de la bile, la maladie telle que la bile.
Ah, c'est là, il vient pas de l'albumine.
Albumine.
Albumine, okay. Dans l'urine.
Oui.
Oui, l'albumine dans l'urine, c'est un, si vous voulez, un indicateur, un symptôme d'une atteinte d'un rein. Voilà.
Donc quand il y a un indicateur, voilà.
Un indicateur.
Ok. Alors, est-ce que cette insuffisance rénale peut être héréditaire dans ces cas?
Cette maladie rénale qui cause l'insuffisance rénale, sont effectivement héréditaires. Donc, on ne peut pas naître avec l'insuffisance, mais on naît avec une maladie
qui peut entraîner
l'insuffisance.
Voilà, donc pour éviter cela, à propos de la prévention, vous avez parlé de l'hygiène de vie. Il faut bien manger, beaucoup de fibres, c'est ça?
C'est ça.
Manger beaucoup de légumes.
C'est bon, oui. Donc, les aliments qui sont très riches en fibres.
En fibres, hein. Ouais. Éviter le sédentarisme.
Éviter le sédentarisme.
Mais l'excès d'alcool.
Le tabagisme agit aussi sur le vaisseau sanguin. Donc, c'est important de ça.
Et certains disent qu'il faut boire beaucoup d'eau.
Bon, il faut boire selon votre soif, selon le condition du milieu. On ne peut pas dire de boire systématiquement beaucoup d'eau. Parce que si vous avez l'insuffisance rénale, que vous ne savez pas et que vous buvez beaucoup d'eau et que le rein n'arrive pas à éliminer cet excès d'eau que vous prenez, ce n'est pas bon.
Ce n'est pas bon.
Ce n'est pas bon. Donc, il faut boire selon votre soif ou boire en fonction des conditions. Maintenant, par exemple, il fait très chaud, c'est bien de boire beaucoup d'eau.
Mmh. Ouais. Oui, il y a certaines personnes qui s'imposent, qui se disent, bon, non, cure d'eau.
Non, nous n'avons jamais conseillé la cure d'eau.
Oui,
nous n'avons jamais conseillé la cure d'eau.
Merci, docteur Nseka Mangani. Vous avez parlé d'une campagne de détection précoce de l'insuffisance rénale. Est-ce que c'est à travers tout le pays ou c'est seulement à Kinshasa?
Bon, nous nous organisons pour faire cette campagne à travers tous les pays. Mais vous comprendrez que cette opération-là exige énormément de moyens.
Oui.
Déjà, nous sommes en train de nous battre pour avoir quelques moyens pour organiser.
C'est pas facile.
Pour organiser la cinquième édition.
Oui.
Parce que cette année, ce sera la cinquième édition.
Mmh.
Nous nous battons pour avoir les moyens. Si nous avons suffisamment de moyens, je crois que d'ici l'année prochaine, peut-être qu'on pourrait. Déjà cette année, il est possible qu'on aille dans certaines provinces.
Oui.
Mais notre ambition, c'est de faire ça à travers
l'ensemble du pays. Merci, docteur Nseka Mangani, chef du département de médecine interne au Clinique Universitaire de Kinshasa.
Merci bien, monsieur.
Okapi.